RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
La dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par le président le 9 juin a pris de court non seulement les hommes et femmes politiques, mais aussi les électeurs qui sont balancés depuis quelques jours entre les différents bords. On ne va pas éplucher les programmes ce matin, mais ce qui est sûr, c'est que pour certains, c'est l'indécision la plus totale et le risque de ne choisir aucun des partis en présence. Je vous le donne en mille, ça peut se traduire par un vote blanc, voire carrément par une abstention. Alors, comment considérer ces votes? Que viennent-ils nous dire de notre société et de notre démocratie? Voilà le programme ce matin de Je pense donc j'agis. En tout cas, on ne s'ennuie pas depuis le 9 juin, on ne s'arrêtera pas ce matin sur les chamailleries à droite comme à gauche, mais nul doute que cette période vous secoue, notamment en famille, et où les débats doivent être parfois brûlants. Comment parler politique en famille ou avec ses proches? Rendez-vous dans la seconde partie de l'émission à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous avez voté blanc aux européennes ou pour d'autres scrutins. L'avez-vous regretté ou alors vous assumez totalement? Militez-vous pour qu'il soit reconnu, ce vote blanc? Et comment considérez-vous celles et ceux qui votent blanc? Pensez-vous qu'il soit difficile de voter au-delà de son propre intérêt particulier? 04 72 38 20 23 pour témoigner par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, il y a en effet du débat dans les dîners, peut-être même au travail. Mais ces législatives inattendues provoquent aussi chez certains une véritable incertitude. Le programme des candidats est trop à droite, trop à gauche, pas assez progressiste, pas assez conservateur. Bref, au moment de voter, rien ne convient. Et alors, puisque c'est l'indécision, certains se disent autant voter blanc. C'est donc une enveloppe vide, ou alors autant voter nul, un bulletin raturé, dessiné, déchiré. Est-ce que cela fragilise la démocratie? Est-ce que c'est un refus de participer et de croire au bien commun? Ou au contraire, est-ce que c'est une façon d'exprimer une véritable exigence pour un projet de société? Mais alors à quoi sert de remplir son devoir civique en se rendant aux urnes si ce bulletin n'est pas comptabilisé? Et faut-il tenir compte justement de ce comportement électoral? D'aucuns n'iront pas du tout voter, et l'abstention sera peut-être une fois encore la fausse surprise du scrutin. Au dernier scrutin, il y en a eu presque 14 millions et on a compté aussi 2,2 millions de bulletins blancs ou nuls. En tout cas, arrêtons-nous justement sur les enjeux autour de ces suffrages différents et sur ce qui motive le vote blanc ou nul. Est-ce un risque pour le processus électoral, pour l'intérêt général, pour même le bien commun? Ce matin, on se penche sur ce qui se passe dans l'isoloir et dans nos consciences.
Et pour en discuter, Madeleine, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir trois invités ce matin.
Avec nous, Giulio Deligio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe politique, maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la démocratie et le totalitarisme, sur les rapports entre religion et politique, le bien commun, le discernement chrétien de l'actualité historique. Merci au studio d'Angers qui vous accueille ce matin. Bonjour Bernard Bourdin.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, auteur des livres « Le chrétien peut-il aussi être citoyen ?» et d'un autre ouvrage « Catholique, deux points, des citoyens à part entière », deux ouvrages aux éditions du Cerf. Vous êtes professeur titulaire de philosophie politique à l'Institut catholique de Paris au sein de la faculté des sciences sociales. Vous êtes également directeur du troisième cycle et de la recherche. Bonjour à Gaël Brustier qui est à vos côtés.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, politologue, auteur du livre « Les analphabètes au pouvoir » aux éditions du Cerf. Vous êtes actuellement en train d'en préparer un autre, vous nous en direz un mot.
Et merci vraiment. Ce matin. Oui, merci à tous les trois de nous accompagner dans cette émission. Vous avez la parole, je le rappelle, pour réagir au 04 72 38 20 23. Et Madeleine, vous l'avez dit, on parle des législatives du 30 juin et 7 juillet, à travers non pas les candidats, ça a son importance ce matin, mais plutôt dans la difficulté à choisir ceux qui se présentent.
Oui, et justement plus précisément d'ailleurs les électeurs qui remplissent leur devoir en se rendant aux urnes mais qui ne soutiennent aucun des futurs députés. Bernard Bourdin, pour vous, qu'est-ce que ces votes blancs expriment? Comment est-ce que vous comprenez ce geste?
C'est assez complexe, me semble-t-il. Mais d'ailleurs le non-vote ou l'abstention a toujours existé. Le vrai problème, me semble-t-il, c'est sa généralisation, qui, à mon sens, exprime une sorte de, on pourrait dire, de désaffiliation. Que devient la démocratie lorsque un peuple ne sait plus, au fond, à qui il appartient ou à quoi il appartient et qu'est-ce qu'il veut faire? Et il perd à ce moment-là tout critère de discernement pour voter, puisque les partis qui s'offrent à lui eux-mêmes, d'ailleurs, sont plus ou moins déliquescents, eux-mêmes n'ont pas de grand corpus d'idées. Donc voter devient de fait un problème. Et donc l'abstention ou le vote blanc, c'est en quelque sorte un refuge. On pourrait dire aussi qu'il y a une autre explication qui est complémentaire. C'est de se dire, après tout, pourquoi voter pour un tel ou tel parti pour être aussitôt après déçu. Donc le non-vote devient en quelque sorte un acte pur. Hein. Je ne prends pas de risque. Et là, on est dans la confusion, me semble-t-il, entre le compromis qui s'impose dans toute démocratie, on n'évitera pas, et la peur de la compromission avec des forces politiques qui vont nous décevoir. Évidemment, tout ceci a des conséquences sur le rapport, vous l'avez vous-même souligné, le rapport au bien commun, mais, et c'est la question que je poserai pour conclure la réponse à votre question, peut-il y avoir encore une idée de bien commun quand il n'y a plus de monde commun ?
Ah oui, alors là, c'est un grand sujet sur lequel on reviendra d'ailleurs, parce que c'est vrai que comment dépasser l'intérêt particulier, aller vers le bien commun, ça aussi, c'est une réalité. Alors, moi, je reviens à une question peut-être plus simple, mais Giulio Deligio, vous, comment est-ce que, pour rebondir sur ce que disait le père Bernard Bourdin, est-ce qu'il faut accepter d'être déçu quand on va voter? Est-ce que c'est une des conditions, finalement, presque intrinsèques au vote, accepter d'être déçu? Ou au contraire, faut-il garder cette exigence et en attendre davantage des candidats, des programmes? Voilà, rester vigilant et rester exigeant.
Oui, j'aurais envie de prolonger la réponse de Bernard Bourdin, qui est un bon ami. Peut-être il faut comprendre, alors, ce que veut dire ce vote blanc. D'autant plus qu'il est possible qu'il représente un parti pas majoritaire au fond de nos âmes, mais peut-être très consistant, très présent parmi nous, par-delà sa visibilité numérique, et que dans un sens, on peut le voir, s'il s'agit de se demander s'il exprime une déception prévue, anticipée. Peut-être pour commencer par dire qu'au vu de notre situation, il est possible qu'il exprime aussi quelque chose d'un humble aveu, d'incompréhension de la situation politique, qui devient illisible, où les contradictions s'aggravent, et où la politique ne fait pas l'effort de jeter des lumières, des vérités, des sincérités sur nos situations. Donc beaucoup peuvent éprouver, avec une certaine même, on peut le reconnaître peut-être, une certaine honnêteté de s'arracher aux passions partisanes qui semblent irrésistibles dans tout moment fiévreux, ces moments fiévreux qu'est l'élection, la campagne électorale. Ils s'arrachent, ils expriment le sentiment qu'on n'aborde pas les problèmes à la juste hauteur. Mais d'autre part, et donc d'autant plus que peut-être il faut se rappeler que le vote, vous avez parlé dans l'introduction de décision totale, et il est manifestement de nos jours, alors que les citoyens travaillent, pensent, écrivent, élèvent des enfants parfois, et on leur demande au fond de faire un choix sous des politiques qui, sans trop de modération aujourd'hui, légifèrent du berceau au tombeau. Sans clarifier quel est le projet de société cohérente qui anime ces décisions d'un bout à l'autre de la vie. Donc, dans un sens, on pourrait commencer par prendre en considération cet acte, non pas de décision anticipée, mais de sincérité peut-être, sous la contradiction, cet appel au fond à resituer la politique dans son dynamisme réel des gouvernements sincères et cohérents d'une société. Mais comme le disait Bernard Bourdin, il n'est pas exclu que ces votes blancs ou sa généralisation, surtout dans nos pays, où il faut le reconnaître et le rappeler par rapport aux États-Unis et à d'autres pays, les votes blancs, l'abstention est un phénomène somme toute réduit jusqu'à récemment. Peut-être aussi, j'allais dire, à côté de la possibilité qu'il s'agisse d'un aveu humble de reconnaissance d'une situation incohérente et lisible, il y a une tentation peut-être de démission du temporel, de sécession presque des choix qui font l'histoire, qui sont toujours opaques à certains égards, Et je dirais même que les votes blancs risquent, s'ils se généralisent excessivement, d'être aussi par moments une sorte d'expression de la méfiance que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Je dis nous-mêmes, le peuple européen, comme si on redoutait au fond d'être encore capable de prendre en charge dignement, intelligemment, justement, même charitablement peut-être, notre destin. Voilà comment je vois l'attention et peut-être déception. C'est le mot juste à condition, je répète, de saisir, d'accepter cette tension possible entre l'humble aveu et la tentation de démission de la vie collective.
Gaël Brustier, est-ce que vous souscrivez au fait que, au fond, ce vote blanc, c'est un appel à la cohérence lancé aux politiques ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'aboutissement d'une crise de régime qui est née qui a été à peu près en 2002 quand il y a eu le quinquennat, en 2000 quand le quinquennat a été voté, on s'est pas aperçu que le rythme allait changer. Et puis la crise de 2008-2009 a fait exploser cette crise de régime avec toutes les autres crises, à partir des crises économiques, financières, etc. de cette période. Et depuis, on a deux types d'intellectuels qui manquent. Les intellectuels collectifs que sont les partis politiques. Regardez ce que produisent les partis politiques à quelques exceptions près. C'est très faible et c'est très techno et c'est sans perspective historique et sans perspective politique concrète non plus. C'est assez indigent en fait. Et d'autre part, c'est les intellectuels organiques, pour parler comme Gramsci et les marxistes, qui manquent parce que ces intellectuels organiques, ils donnaient une explication du monde, ils inventaient des idées pour leur classe sociale. Or, aujourd'hui, tous ces intellectuels organiques sont soit n'existent plus, soit sont muets, et classe sociale se retrouve prise de panique en fait devant les vertiges de l'histoire qui sont en train de s'ouvrir. Ça aboutit aussi à l'indifférenciation des grands partis de gouvernement qui a mené dont la conclusion a été la formation du macronisme qui a visé en fait à rassembler tous les gouvernants, toutes les coteries gouvernantes depuis 40 ans en 2017. Et qui a été la manifestation de cette indifférenciation au pouvoir avec le en même temps. Et de fait, il y avait beaucoup moins de raisons d'aller voter. Et devant l'inaptitude en fait de la plupart des partis politiques à donner une perspective historique, des clés d'explication historique, mais aussi des solutions concrètes et crédibles, il y a beaucoup de gens qui effectivement se réfugient soit dans le vote blanc, soit dans l'abstention, soit dans le vote nul qu'il faut pas oublier parce qu'il y a vous savez, pendant les dépouillements, il y a toujours des moments très intéressants quand on voit ce qui ressurgit. Ce qui est écrit sur les bulletins, il y avait une année, c'était la TIPP. Il y avait une élection avec la TIPP et dans toute la France, il y avait des noms à la TIPP.
Ah ouais.
Je me souviens de ce dépouillement, c'était assez frappant. Il y en avait des dizaines, noms à la TIPP, etc. Noms à la hausse de la TIPP. Bon.
Vous voilà. Soulignez donc, la confusion, c'est ça.
C'était la taxe sur les carburants, la TIPP.
Principe de précaution, en fait, démocratique, dans la période qui s'ouvre. C'est-à-dire, beaucoup de gens partagent parfois les idées d'un des partis politiques, mais sont tout à fait révulsés par la violence verbale qu'il y a aujourd'hui dans la vie politique. Ils n'ont pas envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres raisons. Le fait qu'aucun programme ne leur convient.
Oui.
Quand vous regardez les municipales la dernière fois, la plupart des listes des grandes villes, des Verts au Front National, avaient tous le même programme, végétalisation de l'espace urbain, création de crèches participatives, etc. Donc c'était très bien peut-être, mais il n'y avait aucune espèce de différence entre toutes ces listes. Ça aboutit d'ailleurs au basculement de villes. Chez les Verts avec très très peu de voix à cette époque-là.
En tout cas, le programme de Je pense donc j'agis ce matin, vous l'entendez. Le vote blanc, est-ce que c'est un risque électoral ? On en discute avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages, vos réactions. Si vous avez voté blanc aux européennes ou pour d'autres scrutins, est-ce que vous le regrettez maintenant ou alors vous l'assumez totalement ? Faites-vous partie de ces personnes qui militent pour qu'il soit reconnu, le vote blanc ? Et pensez-vous qu'il soit difficile d'ailleurs de voter au-delà de son propre intérêt particulier ? Vous réagissez au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos trois invités, Madeleine, jusqu'à 10h, Giulio Di Leggio, Bernard Bourdin et Gaël Brustier.
Oui, Bernard Bourdin, je voudrais revenir sur ce que disait Gaël Brustier. Est-ce que finalement c'est la confusion qui appelle à une sorte de démission par rapport au vote? C'est la confusion des programmes, la confusion des candidats. Gaël Brustier parlait des classes sociales. Est-ce que pour adhérer, il faut sentir plus de clarté dans les propositions? Est-ce que c'est ça le cœur du problème ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le fait que c'est compliqué de voter pour le bien commun, pour une société qui nous dépasse?
Ben, oui, bien sûr qu'il y a une confusion des propositions, certainement, ou des programmes. Mais qu'est-ce que révèle cette confusion? Je pense qu'il y a, pour aller plus au fond des choses, mais c'est, tout se tient, il y a une déliquescence de l'idée même de politique. Nous avons affaire à, au fond, des politiques qui sont devenus surtout... au fond, des technocrates, j'allais dire, des hommes compétents, ils ont leurs propres compétences, mais ils ne savent plus ce qu'est l'action politique dans le long cours. Donc, des faux politiques génèrent forcément des faux citoyens. C'est-à-dire, comment peut-on être encore citoyen si on a affaire à des politiques qui ne font croire qu'ils le sont, mais ils ne le sont plus. Et ils ne le sont plus parce que eux-mêmes sont devenus essentiellement des individus et non pas des politiques qui incarnent véritablement le pays et qui veulent le conduire vers le bien commun recherché, en sachant toujours que le bien commun n'est qu'une visée et jamais une réalisation plénière. C'est une évidence. Et c'est là qu'on est en démocratie, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que le bien commun procède d'une délibération où personne ne peut prétendre avoir un savoir total du bien commun, ce qui est rassurant, d'ailleurs. Ou alors, on ne serait plus en démocratie. Donc, c'est une bonne chose que chacun ait sa petite idée du bien commun, mais l'acte civique par excellence, c'est de participer à cette élaboration du bien commun. Mais pour cela, il faut du même coup, par cette visée recherchée, avoir un grand sens de ce qu'est le politique, et non pas simplement être dans la compétence, une compétence technique. Je lisais pas plus tard qu'hier dans le journal La Croix des propositions du Premier ministre sortant, disons, appelons-le comme ça pour l'instant. Gabriel Attal, oui, bien sûr. Mais ce sont des propositions qui sont certainement sincères. Moi, je ne doute pas de la sincérité du Premier ministre. Mais ce sont toujours des propositions très techniques, au fond, mais qui ne touchent pas les gens. En fait, ça touche pas les gens. Essayer de rejoindre les classes populaires par un peu moins d'impôts ou un peu plus de ceci, un peu moins de cela, tout ça, c'est bien. Mais on voit bien des gens compétents, mais qui ne sentent pas ce que recherche véritablement le pays. Alors, ça pose à un moment donné une scission, c'est-à-dire que vous avez une montée en puissance des extrêmes, comme on dit, et qui, eux, ne sont pas forcément plus compétents, mais touchent les gens. Vous voyez,
toucher les gens, après on a vu aussi que ça part parfois dans du populisme et donc dans une sorte de discours simpliste, juste pour toucher les gens, pour faire vibrer, pour appeler à l'émotion. C'est compliqué de sortir du technique et en même temps de peut-être tirer trop sur l'émotion. Quel est le juste
alors milieu? Bien sûr que cette scission entre l'émotion ou les passions et la raison est dangereuse en démocratie, évidemment. Il faut que les deux soient réarticulés, c'est tout à fait clair. Si c'est uniquement pour toucher les émotions et faire plaisir aux gens, c'est de la pure démagogie. Et d'ailleurs, c'est le danger, je suis bien d'accord avec vous. Mais si la raison n'est qu'une froide raison technicienne et non pas une raison politique, elle ne mène à rien. Et de fait, je crois que vous posez bien le problème, d'ailleurs. Il faut recomposer tout cela, à la fois appartenir à une véritable affection sociétatis, c'est-à-dire ce qu'on appelle au fond une nation qui n'est pas la nation ethnique. Vous voyez, le mot aujourd'hui est piégé, mais la nation civique. La nation civique, celle qui permet qu'il y ait des citoyens, donc des êtres de passion, on l'est tous, mais espérons-le, de passion positive, bien sûr. Les passions ne sont pas que négatives, mais aussi des êtres de raison.
Une raison
qui n'est pas froide, mais qui s'inscrit dans un corps politique qui a conscience de lui-même, donc de son attachement à lui-même, et là on est bien dans une passion positive,
oui.
et en vue précisément d'un bien commun. C'est pourquoi, pour conclure mon propos tout à l'heure, je disais que il ne peut pas y avoir, ma question est un peu une fausse question, à vrai dire, c'est une affirmation interrogative, on pourrait dire. Il ne peut pas y avoir de bien commun sans qu'il y ait un monde commun, un sentiment d'appartenance. Et le non-vote, ou l'abstention, ou le vote blanc, c'est l'expression d'une désaffiliation civique. Et ça, c'est dangereux. C'est très grave, évidemment. C'est la voie
alors,
ouverte.
Justement, je reviens sur une expression que vous avez utilisée, parce que vous évoquez l'importance de construire une nation civique, et vous l'opposez à une nation ethnique.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est que la nation ethnique, elle ne s'intéresse au fond à la nation qu'en tant qu'identité. C'est une essentialisation. On le voit bien par donc l'étranger est forcément par nature dangereux. Enfin, vous voyez les idées quoi. Hein, c'est général, c'est ça. Et ça ne fait l'identité. Pas une nation civique. Ça fait c'est l'identité. Alors l'identité, il ne faut pas la mépriser. Elle est nécessaire, hein, à condition qu'elle soit pensée comme le désir de continuer à être une communauté humaine ou une nation, une communauté d'existence pérenne. On veut tous se pérenniser, personne ne veut mourir. Donc si on veut que la France vive, eh bien, il faut qu'elle soit pérenne et qu'elle persévère. Mais ça n'est pas, évidemment, dans une approche uniquement essentialiste qu'on peut y arriver. C'est en reconstituant une nation civique, c'est-à-dire faite de citoyens, conscient d'appartenir à une histoire commune. Et dire une histoire commune, c'est pas une essence intemporelle. Hein. C'est d'être inclusif au meilleur sens du terme. Au meilleur sens du terme, parce que on peut tout mettre dans l'inclusion, mais avec discernement. Mais qu'il y a un projet commun parce qu'il y a un héritage commun.
Allez, un message de Jean-Jacques à l'adresse direct@rcf.fr. Le vote blanc me semble intéressant à condition qu'il soit comptabilisé. Je préfère un vote blanc à un vote par défaut, comme cela s'est produit à la dernière élection présidentielle où beaucoup de citoyens ont voté contre et non pour un candidat, ce qui conduit à une élection sans véritable caractère démocratique. Un candidat élu par défaut finit toujours par perdre sa crédibilité au cours de son mandat. Moi, je trouve ça très intéressant, Gaël Brustier. Est-ce que finalement, ne voter... on va dire contre un candidat, c'est une élection, comme le dit Jean-Jacques, sans caractère démocratique. On ne peut pas être aussi radical, c'est peut-être pas le bon terme en ce moment. Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Le pari du président Macron avait été de se perpétuer éternellement au pouvoir d'une certaine manière, puisque c'était lui ou le Front National, et il pensait que jamais le Front National ne serait élu. Bon, on n'est pas plus vraiment dans ce cas de figure, mais il est vrai que le fait d'expliquer que c'est ça, c'est cette voie politique ou le chaos, a de quoi soit mettre en colère, soit dégoûter beaucoup de citoyens qui ne vont plus aux urnes. Alors il y a des systèmes électoraux qui ont quand même, notamment dans certains États américains, qui se sont prémunis contre ce type de situation, les uns en obligeant le candidat élu à avoir un certain nombre de voix, et puis ni l'un ni l'autre marqué sur le bulletin, et ou alors en instaurant le mandat révocatoire en Californie, peut-être pas parfois pour le meilleur, parfois ça peut être très efficace pour responsabiliser les gouvernants et les remettre face à leurs responsabilités. Moi je dirais, en tout cas, il y a une chose, c'est sur les affects. On a une difficulté en France. Les affects contribuent aussi à la construction du peuple, comme dit mon ami Chantal Mouffe. Mais il y a une difficulté, c'est qu'on a une polarisation extrême des territoires et on ne développe pas les mêmes affects à Montreuil, par exemple, ou à Montceau-les-Mines. Et donc ça, ça va être de plus en plus compliqué, en fait, de faire nation, comme on dit, avec des situations géographiques aussi différentes, des affects radicalement opposés et des cartes électorales qui signifient de plus en plus. Là, les cartes sont très parlantes et on arrive au paroxysme de ce qui avait été annoncé par le référendum de 92, puis par l'Atlas de Christophe Guilly, c'est-à-dire des fractures et des polarisations entre territoires extrêmement différents, et qui risquent de figer aussi le combat démocratique.
Giulio Deligio, qu'est-ce que vous dites, vous, sur le fait de comptabiliser le vote blanc véritablement dans les résultats à la fin? Parce qu'aujourd'hui, les votes blancs, ils sont bien notés, ils sont comptés, mais ils ne sont pas comptabilisés. C'est-à-dire qu'ils figurent sur une colonne à part. On a repéré X bulletins blancs et X bulletins nuls, votes nuls. Mais en revanche, ils ne font pas partie du résultat final au milieu des autres suffrages exprimés. Donc, ce qui, en quelque sorte, le vote blanc, il est exprimé, mais il n'est pas comptabilisé.
Qu'est-ce en que quelques vous en mots, avant la pause.
Oui, nous sommes en train de situer la discussion au juste niveau de l'enjeu de l'illisibilité du métabolisme représentatif de la France, de la difficulté que la France, l'Europe a de se connaître elle-même. Je ne suis pas sûr que par une sorte de décision arithmétique, de calculer simplement de manière formelle le vote blanc, on résoudrait les problèmes qu'on vient d'évoquer. Il s'agirait, puisque le métabolisme, puisque la vie d'une démocratie représentative dure pendant 5 ans, elle forme sa conscience, son rapport entre la vie des citoyens et la représentation de dirigeants et de gouvernants tout au long de 5 ans, c'est certainement important de donner une place explicite à ces votes blancs.
On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant, Giulio Deligio, avec vos appels sur le vote blanc 04 72 38 20 23 tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. On s'intéresse au vote blanc ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos trois invités. Bernard Bourdin, je rappelle que vous êtes dominicain, auteur des livres Le chrétien peut-il aussi être citoyen et du livre notamment, je ne vais pas tous les citer. Gaël Brustier, vous êtes essayiste, politologue et auteur des Analphabètes au pouvoir aux éditions du CERF. Et Giulio Deligio, vous êtes philosophe politique et maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest. Je suis confus, je vous ai un petit peu coupé la parole de manière très brutale tout à l'heure. On parlait de la comptabilisation des votes blancs comme des suffrages dans le résultat final, non pas dans une colonne à côté, mais vraiment comme un résultat, hein, de Giulio Deligio.
Oui, j'étais simplement en train de dire que historiquement, la démocratie représentative est aussi un effort pour les pays de se gouverner et de se connaître. Donc on attend le moment électoral pour réunir les consciences, les opinions diffuses, essayer de leur donner une cohérence qui deviendra active par le gouvernement choisi. Et donc, il est clair que tout ce qui permet de préciser ces mécanismes arithmétiques, cette autopsie, mais évidemment, on parle d'un corps vivant, peut clarifier, d'où ces moments de clarification et de choix de gouvernement. En même temps, il ne faut pas réduire, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas réduire, essayer de trouver nécessairement dans une arithmétique perfectionnée la clé de la solution à la profondeur des problèmes qu'on vient d'évoquer. Et c'est en ce sens que peut-être mesurer l'état des élections, des campagnes électorales à quelque chose de significatif, je crois. Ce qu'on a l'impression, au fond, le grand contraste par rapport au sujet de notre discussion, le vote blanc, c'est qu'il s'accompagne d'une dramatisation de la campagne électorale, une dramatisation un peu rituelle, qui a fait partie de l'histoire de nos pays, des démocraties représentatives. Et en même temps, on peut se demander quelle est la nature exacte de la dramatisation présente de la campagne électorale. Vous avez cité des éléments importants de notre situation, à l'occurrence le vote négatif, oui, qui est toujours fait partie, évidemment, d'une comparaison et du choix des citoyens. Mais je ne sais pas si on mesure suffisamment l'effet que le vote négatif risque, en somme, de réduire l'espace des choix crédibles, des choix possibles de nos vies citoyennes, non seulement en France où, par exemple, des expressions comme « faire barrage » ou alors « sanctionner telle politique » devient en somme le verbe, l'action qui résume la vie électorale, donc une action purement négative. Mais on a parfois aussi le sentiment que soudainement, on a des moments de dramatisation un peu hypocrite et fiévreuse de l'analyse du choix sous la vie des pays que tout au long des années, parfois, dont on ne mesure pas véritablement les drames et dont on ne s'efforce pas de mesurer les drames. Comme si les partis refaisaient surface.
Pardon, je vous coupe, mais qu'est-ce que vous appelez une dramatisation de la campagne électorale, pour qu'on comprenne bien ?
Je disais, comme vous le voyez évidemment, les sentiments qu'on ait face à des tournants que chaque parti, évidemment, orchestre selon sa grammaire propre, moi ou les chaos, faire barrage au retour des ensembles de l'histoire, évidemment, ou alors sauver la France par rapport, on peut dire, aux mensonges européens. J'essaie d'interpréter les trois parties présentes pour, de manière impartiale, mais vous voyez que, en principe, on pourrait espérer que cette dramatisation s'accompagne d'une analyse pertinente, qu'il ait été préparé, qu'elle soit lisible, qu'elle soit compréhensible. Si le drame est si élevé, si un pays risque de perdre son âme, si le chaos s'annonce, si le fascisme est vraiment aux portes du pouvoir, il faudrait qu'au fil des années, cette perspective soit devenue claire à assez de personnes, à assez de citoyens, pour qu'on puisse en tirer une perspective désirable sur le pays. Et ce n'est pas notre situation.
Allez, 9h34, dans Je pense donc j'agis. Je vous lirai un message tout à l'heure de Pierre par mail à direct@rcf.fr. Vous continuez de réagir pour nous parler du vote blanc. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Si vous avez déjà eu l'occasion de voter blanc, bah dites-nous pourquoi et si vous regrettez ou si vous assumez. 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Fortnite, c'était Taylor Swift pour vous accompagner en ce mercredi matin en duo avec Post Malone.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Pierre nous a envoyé un mail. Quel mépris pour le vote blanc alors qu'une personne s'est déplacée pour remplir son devoir de citoyen et manifester qu'aucun candidat ou qu'aucune liste ne sont à ses yeux capables de conduire l'avenir de son pays. Femmes et hommes politiques sont souvent complices pour ne parler de politique en matière de stratégie électorale et de petites combines pour mettre en difficulté ses concurrents. Les questions des journalistes aux personnes politiques ne tournent souvent qu'autour de cela. Oui, il faut comptabiliser le vote blanc. Bernard Bourdin, je vous pose cette question. Est-ce que c'est dangereux de s'attarder sur les votes protestataires? Comment on peut faire autrement?
Vous voulez dire que vous définissez le vote blanc comme un vote protestataire?
Oui.
D'accord. Comme vient de le dire notre interlocuteur, il ne faut pas mépriser le vote blanc, le vote protestataire. C'est pas le sujet. De fait, c'est un vote protestataire, c'est un vote de non-reconnaissance dans toutes les propositions politiques qui sont faites. Et de fait, il faut le respecter. Mais il ne faut pas se contenter de le respecter, il faut en tirer des leçons. Il faut entendre ce que cela signifie. Et cela signifie quand même, je me répète un peu là, mais une désaffiliation par rapport à la vie politico-civique du pays. Hein, donc, respecter ce choix n'est pas non plus simplement l'entériner. Il faut en tirer des leçons. Et ça, c'est pas du mépris. C'est une réflexion qu'il faut en tirer. Et les solutions techniques... Je rejoins d'ailleurs ce que disait Giulio Ligio tout à l'heure. Les solutions... Il y a toujours des solutions techniques. On n'évite pas les procédures, comme on dit maintenant. Mais... Et ne sont pas suffisantes par elles-mêmes. Hein. On assiste en fait au travers de ce vote blanc et protestataire, on assiste en réalité à ce qu'on peut appeler depuis un certain nombre d'années une véritable destitution du peuple. Et pourquoi y a-t-il tant de populisme? Le populisme a remplacé le peuple. C'est le cri. Donc, ou bien je ne vote pas, très bien. Ça faut l'entendre une fois encore. Mmh. Ou bien je vote pour des partis populistes, même si ce mot d'ailleurs veut dire beaucoup de choses. Mais ça veut dire que le peuple est regimbe. Il regimbe par la désaffection ou par la protestation active ou la protestation passive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le populisme, il faut pas le mépriser. Hein. Il faut s'en inquiéter, mais pas pour le condamner moralement. Ça ne mène à rien. Mais pour en analyser, en tirer les conséquences, le peuple a été destitué, ni plus ni moins. Or, en démocratie, il n'y a pas de démocratie sans peuple. Ça me paraît être du pur bon sens.
Alors, le peuple, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'était la démocratie, ou qu'elle est trop dure à réaliser, ou que finalement on s'est trompé en pensant que des personnes élues toujours poursuivraient l'idée qu'ils représentent les personnes qui les ont élues. Est-ce que c'est ça aussi la difficulté?
Oui, c'est sûr, c'est la difficulté. Alors, on a perdu, oui, pour vous rejoindre, la démocratie s'est érodée, je dirais. Hein. Elle s'est érodée et notamment, ce qui est très significatif, c'est qu'elle est devenue essentiellement une démocratie des droits individuels, finalement. Hein. Mmh. Elle ne se pense plus comme un régime de volonté collective. Et d'ailleurs, ce qui entraîne un grand mépris à l'égard des... Vous voyez, à l'échelle mondiale, la montée en puissance des régimes autoritaires ou néo-totalitaires à la chinoise montre combien nous sommes méprisés. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi? Ce sont les droits individuels, c'est l'émancipation individuelle, mais ça ne fait plus du citoyen. C'est-à-dire ça ne fait plus un régime de puissance ou d'effectivité. Et ça, c'est dangereux. Hein, parce que, et là aussi, vous voyez, tout à l'heure, on parlait ensemble de la dissociation émotion ou passion et raison. Là, il y a une dissociation au sein de la démocratie entre droits individuels et régime de volonté. Il faut réarticuler les deux. Bien sûr qu'il n'y a pas de démocratie sans droit. Ça, c'est d'une pure évidence. Mais elle n'est pas que cela. C'est un régime de volonté collective. Hein. Et si elle n'est plus cela, elle se débilite comme démocratie. Et donc, le peuple se sent destitué. Et va chercher ailleurs des solutions, quitte à aller à l'aventure.
Hein. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une volonté collective, parce que c'est ça aussi qui est peut-être difficile à percevoir aujourd'hui. Il y a une volonté collective qui rassemblerait au plus large.
Oui, oui, je crois comprendre ce que vous vous dites. Enfin, si je me trompe, vous me le direz. Mais on est là pour dialoguer, justement.
Ah oui, oui.
On est là pour ça, donc on peut se méprendre sur ce que l'autre a dit. Hein. Mais il me semble comprendre ce que vous dites comme étant, en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a une volonté collective qui est un peu cachée. C'est un petit peu comme la belle au bois dormant, quoi. Hein. Elle est cachée. Et elle ne demande qu'à trouver son prince charmant. Donc, alors, pour réveiller cette volonté qui est là, mais qui est dormante, elle ne demande que ça. Donc, je crois que vous avez raison. Faut pas dire que le peuple, même si c'est une catégorie compliquée, hein, on peut lui faire dire beaucoup de choses, mais le peuple, bon, pour moi, comme ça, n'a pas, ou les Français, voilà, en l'occurrence, les Français, n'ont pas voulu, ne veulent pas en tant que tels cesser d'être un peuple, finalement. Ils ne veulent pas en tant que tel ne plus avoir une volonté, simplement qu'elle n'est plus sollicitée comme telle. Donc chacun se réfugie dans son quant à soi individuel, au fond. Donc je vous rejoins, en effet, il y a cette volonté, elle est dormante, il faut la réveiller. Voilà. Et ça, c'est tout. Et c'est la meilleure garantie contre le populisme et la démagogie. Ça, je crois que c'est. Je vous écoute.
Ouais. Alors, on va plutôt écouter Jocelyne au 04 72 38 23. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour, merci de m'écouter aussi.
Avec joie, allez-y.
Voilà, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que je vais bientôt sur mes 70 ans. Ouais. J'ai toujours voté depuis l'âge de 21 ans à l'époque. J'ai toujours été très très proche de tout ce qui est politique, ça fait partie de ma vie et de ma culture. Mmh. Et bien pour la première fois de ma vie, contrairement à ce que j'ai entendu, ben moi je vais voter blanc si je me retrouve face à une extrême droite ou une extrême gauche, parce que c'est un moyen d'expression, c'est un vote courageux, parce qu'on se déplace, on reste pas chez soi, on prend une enveloppe, on remet rien dedans. Et on montre qu'on n'est pas d'accord. On dit qu'on est en désaccord, ça veut dire qu'on refuse de cautionner ce qui est proposé pour notre pays. Et c'est capital. Il faut que tous les gens qui ne sont pas d'accord osent voter blanc. C'est pas du tout avoir peur. C'est pas du tout ne pas être au courant de la politique. C'est le contraire.
Merci Jocelyne. Grand merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Giulio Deligio, vous semblez assez d'accord avec ce que nous dit Jocelyne. Il y a une question quand même au fond de son témoignage que je vais vous poser. Comment savoir, quand on se met à la place de Jocelyne, ce qui est bon pour la société ou ce qui est mauvais ?
Et combien d'heures j'ai à disposition pour répondre ?
Pas beaucoup.
Ah, c'est passé le sujet philo, là.
Ouais. Non, d'abord, il faut dire effectivement de remercier les témoignages qu'on vient d'entendre.
Ah oui, c'est riche.
Parce que c'est que qu'il fallait quand même remarquer par rapport à l'hypothèse, en partie juste, de Bernard Bourdin, sur la désaffiliation. Le vote blanc est souvent un acte très réflexif, si j'ose dire. Ce n'est pas la partie la moins intéressée, la moins. Qui exerce le moins les jugements sur la population, qui prend le temps d'aller exprimer son mécontentement. Donc ce témoignage, j'avais parlé d'humble aveu, d'une difficulté à choisir. Elle a parlé, notre interlocutrice, de courage. Ce n'est pas peut-être le mot exact, parce que si on laisse aux vertus leur ampleur, mais elle a tout à fait raison de revendiquer la nature réfléchie de son acte. Alors, pour choisir comment le faire, vous avez évoqué tout à l'heure, dès l'introduction de notre émission, la doctrine du bien commun, la perspective du bien commun, la philosophie du bien commun, si vous voulez. Il y a certainement des critères, on ne peut pas les dérouler ici, mais s'il y a des critères... l'occurrence que la philosophie politique ou alors la théologie chrétienne, en tout cas les grandes propositions de sagesse qui ont rempli les vies, les éducations de nos nations, nous proposent toujours, elles sont disponibles. Je ne vois pas pourquoi aux années 30, le post-révolution française était des époques plus difficiles où il était plus facile d'exercer le discernement que la nôtre. C'est l'épreuve humaine qui se confond avec le discernement. Donc les critères de bien commun, pour reprendre une synthèse qui est simple pour moi évoquer, celle de Père Gaston Fessard, l'exigence de sécurité, l'exigence de justice, et l'exigence de mettre à l'œuvre la vocation d'une nation, vous voyez, sont déjà... trois éléments. Il faut une certaine sécurité, des possibilités de vie ordinaire. Il faut un effort de justice pour que la communauté tisse ses liens véritablement. Et peut-être il faut aussi un dynamisme profond, une orientation, qu'un pays remplisse sa vocation, qu'il suive le dynamisme de sa vocation. Et vous voyez, je m'arrêterai là. Vous voyez, des quelques heures que j'espérais avoir, je ne sais pas, ça 5 minutes, pour proposer ces deux remarques. La première, c'est la difficulté. Si on prend ces critères, on pourrait se dire auxquels il faudrait donner du contenu. Qu'est-ce que veut dire sécurité comme une exigence ordinaire et légitime? Qu'est-ce que veut dire justice? Et qu'est-ce qu'une vocation d'une nation en Europe ou tout court? Si vous les prenez, on pourrait dire que vous avez parfois le sentiment qu'aucun des partis fait l'effort quand même de les tenir ensemble, de les proposer d'un bout à l'autre, de la sécurité à la vocation. En première remarque qui peut-être éclairerait notre situation. Et puis l'autre élément que je vous propose dans notre discussion, c'est la suivante. On ne sait pas quels sont les enjeux véritablement pertinents qui nous divisent ou qui nous unissent. Si je devais mettre sur table une question clivante, comme on dit par définition, on a le sentiment que le pouvoir d'achat soit après tout les critères concluants autour duquel les élections, les victoires et les défaites se définissent. Et puis, vous regardez attentivement les tensions fortes ou réelles au sein de l'Union européenne, entre les pays et la Commission, ou entre les pays européens, ou entre les partis, et vous découvrez qu'il y a des enjeux très difficiles à articuler, mais très intimes, par exemple l'avortement, qui ne cesse de rester un peu au fond de nous-mêmes. Et on a le sentiment parfois, si vous prenez les questions dites malheureusement sociétales, qu'au fond, l'adhésion des citoyens se fait encore, mais implicitement, parce qu'on n'a pas l'intelligence, la patience de les articuler pleinement, ces questions. Peut-être alors, ce sont encore des questions qui donnent une image de la vocation, de l'idée de la vie que l'on se fait, qui nous sépare, qui nous divise, qui nous unissent et qu'il faudrait pouvoir, en somme, thématiser. Mais vous voyez, dès que j'évoque, je m'arrête là, ces sujets qui font objet des lois communes, incontestables, mais parfois, on a simplement le sentiment que la promotion d'un de ces sujets, que la célébration de ces sujets peut diviser les citoyens. Que telle perspective sur la société, la vie morale, préoccupe les familles, les foyers, les enseignants, les travailleurs. Mmh. Et donc, je résume, à tel point, que comme récemment dans les G7, vous avez le sentiment que les deux pays que j'aime, la France et l'Italie, Meloni et Macron, ne pouvaient pas se serrer la main sincèrement parce qu'on avait coupé une déclaration commune de cette réunion, de la référence à l'avortement qui est incontestée aussi en Italie comme loi. Et donc, comment faire pour reprendre l'effort des biens communs si on n'arrive pas, non pas à remettre en cause les lois qui fixent pour l'instant, en ce moment en tout cas historique, les tissus de la vie commune, les non-libertés, mais comment on fait à viser le bien commun si on n'est pas certain de pouvoir élaborer ensemble les sujets à un sens qui ne nous font pas vivre à la surface de nous-mêmes, mais qui touchent profondément les vies. Voilà.
Oui, alors c'est toute la question. C'est aussi ce que vous soulevez, c'est avoir une belle exigence, avoir vraiment une attente par rapport au pouvoir politique, savoir aussi formuler ses propres idées, mais en même temps continuer à voter blanc. Est-ce que ça fragilise la démocratie ou au contraire ça vient dire « je me suis déplacé, j'ai voté, mon vote doit être compté » car il signifie quelque chose. Le vote blanc, est-ce qu'il fragilise la démocratie ou est-ce qu'au contraire c'est une foi en la démocratie? Gaël Brustier.
C'est une conséquence de la non-prise en compte du citoyen, ce qui était autrefois le citoyen au sens par les élites du pouvoir, c'est-à-dire les élites qui ont accès au système institutionnel, s'étant parfaitement éloigné, une des solutions, c'est soit l'abstention, c'est-à-dire se mettre hors jeu, soit de se déplacer, ce qui est une démarche, effectivement. Vous savez, des militants du vote blanc, qui étaient même candidats pour un parti, c'était voté le parti du vote blanc, le parti blanc. Donc c'est tout à fait...
C'est pas du tout la même démarche que l'abstention.
Des fois il y a des opportunités bref si vous voulez de géographiques aussi mais je crois qu'il y a surtout là-dedans le fait qu'il y a un médiateur entre l'aspiration collective des individus et leur concrétisation politique. Les partis politiques et les représentants se sont quasiment évaporés et on le voit très bien au Parlement où il y a une incapacité une incapacité des représentants à représenter leurs concitoyens, à être dans la représentation, avec une incapacité à transcender leur propre situation personnelle. Et on a vu très bien au début des débats, les pré-débats sur la fin de vie, où chacun y allait de son récit larmoyant sur une situation qui concerne tous les foyers de France, à savoir la mort d'un ancien, la fin d'une sœur, etc., etc. Et il y a, si vous voulez, c'est renforcé comme il n'y a plus de référendum. Comme de toute façon, on a une indifférenciation des politiques menées, qu'elles se soient de la droite et de la gauche, depuis 30 ans. Il n'y a plus beaucoup de solutions. Si on ne veut pas, et en général, les électeurs blancs, partisans du vote blanc, sont plutôt des gens qui ont une instruction civique parfaitement respectable et au-dessus de la moyenne. Mais en face, ils ont des représentants qui, eux, ont basculé. On a vu basculer ces 2-3 derniers mandats à l'Assemblée nationale, toute la représentation nationale, dans une tendance au ludique. Ils entretiennent un rapport complètement ludique avec la politique. Ils s'amusent. En même temps, fait de brutalisation et de plonger dans la fiction, c'est-à-dire qu'ils ne se comparent plus qu'à des personnages de Netflix. Et ça nourrit en fait l'incapacité. Ah, bon, il faut les voir, tous les portraits qui sont faits. J'ai eu un peu fort, mais je me suis astreint à suivre certains portraits. C'est assez édifiant. Ça nourrit.
Ça veut dire qu'on a les représentants, ceux qui aujourd'hui se prennent du temps, malgré tout, s'investissent, finalement ne tiennent pas, ne sont pas à la hauteur de l'attente énorme que suppose une démocratie vis-à-vis de ceux qui se représentent.
Je pense qu'ils n'ont pas la même conception que dans la législature 1988-93 ou 81, enfin de ces législatures-là, si vous voulez, ou même les dernières sous Jospin, etc. Ils n'ont plus du tout cette conception de la politique. Il y a une mutation du personnel politique qui l'hôte de tout effort, de tout travail idéologique, de tout travail de conception du monde, et qui fait qu'ils ne se projettent plus que par leur image ou leur témoignage personnel. Ça, tout le monde peut le faire. Donc ça exacerbe, si vous voulez, ça exacerbe aussi beaucoup de frustration des citoyens qui estiment que bon, il y a plus rien à tirer d'un régime politique qui en est arrivé là. Je crois qu'il faut, enfin c'est tout à fait édifiant de suivre et de voir la violence, par exemple, soit Georges Fenech ou Pierre Mazeaud sont retournés à l'Assemblée nationale en tant qu'anciens parlementaires, les deux témoignages convergent. Vous avez une brutalisation des rapports interpersonnels, un effacement de la politique qui aboutit à la haine de l'autre et à la volonté de destruction de l'autre. Puisqu'il n'y a plus de récit politique, il ne peut y avoir que la violence.
Bon, Bernard Bourdin, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait le constat que c'était pas au niveau, peut-être, mais en tout cas, voilà, on va se rendre devant les urnes, dans les urnes, enfin en tout cas dans les isoloirs pour voter. Qu'est-ce qu'on fait une fois que on a constaté que c'était qu'on est déçu, que peut-être c'était pas autant qu'on voudrait, que c'était pas aussi exigeant qu'on souhaiterait? On doit bien composer, et c'est aussi ce que doivent faire les chrétiens, composer avec le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que vous quelle conclusion à quoi vous appelez les auditeurs, Père Bernard Bourdin? Parce que voilà, il y a sûrement une déception par rapport à ce qui existe, mais en attendant, chacun va se rendre pour aller voter, et comment faire?
Ah oui, là vous me posez une immense question, c'est le grand défi. Qu'est-ce qu'on fait?
Je vous la pose parce que vous avez beaucoup réfléchi dans vos ouvrages justement sur cette question-là de composer aussi avec le monde qui existe et comment être un chrétien dans le monde, en tout cas comment être un citoyen dans le monde.
Alors oui, merci beaucoup de le rappeler et de m'avoir lu. J'entends dans votre question un souci d'articuler, et c'est important de toute évidence pour nos auditeurs, le citoyen a aussi à ses ressources spirituelles. Si je ne me trompe, hein, je pense que il n'y a pas de citoyen possible sans qu'il ait des ressources. Et par rapport à la question que vous posez, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire si nous sommes 67 millions de citoyens ou qui essayent de l'être, mais qui n'ont plus finalement de ressources. Faisons d'abord un constat simplement historique, très rapide. Le marxisme apportait une ressource. Il est mort. Il n'apporte plus rien. Il alimentait la gauche avec un sens de l'histoire qui donnait un sens à l'action politique. Je peux continuer à à gauche, à droite aussi d'ailleurs. Le gaullisme apportait quelque chose aussi. Bon, tout cela, c'est des faits. Alors, nous vivons dans une situation, le politique est devenu un grand vide. Il me semble que dans ce...
On va devoir vous couper, je suis confuse. Merci beaucoup Bernard Bourdin, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui se consacrent à cette question. Merci Giulio Deligio, vous êtes philosophe politique. Et puis merci Gaël Broussier, je suis confuse. Mais c'est vrai qu'on est tenu par le temps. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio, également à l'équipe d'Angers. Merci Madeleine Vatel pour cette émission. Dans un instant, à 10h, la seconde partie de Je pense donc j'agis. Est-ce que c'est une bonne idée de parler politique avec ses amis et sa famille? Ça, c'est une bonne question. On va ouvrir le débat au 04 72 38 23.